Nous continuons notre série sur les héros de la foi dans Hébreux au chapitre 11. Mais nous allons lire le psaume 118 par rapport au chant que nous venons de chanter, psaume 118. Psaume 118. À partir du verset 22, psaume 118, c'est écrit: la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. Là, il s'agit de Jésus. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Donc dans d'autres versions, c'est écrit qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Et là, c'est écrit: à cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Éternel accorde le salut, Éternel donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Là, nous sommes dans des célébrations au temple de Dieu. Et c'est important parfois de se remettre dans le contexte. Nous sommes donc en célébration, il y a célébration dans le temple de Dieu. C'est pourquoi on dit que c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, verset 26. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez des branchages au cortège de fête, jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu et je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Nous prenons Hébreux 11. Hébreux 11. Donc nous rappelons que nous avions dit, selon la définition du verset premier, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que quand on a foi, on croit que des choses de l'avenir vont arriver. Mais c'est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que nous croyons que celles qu'on ne voit pas, elles existent bien et bien. Un exemple, on croit que Dieu est tout-puissant, même si on ne le voit pas, on croit qu'il est réel. Ça, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, je crois, par exemple, que Dieu a la puissance de me guérir. Donc, ça, c'est la foi. Maintenant, l'assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire que je me vois déjà guéri dans l'avenir. C'est ça, l'assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, je crois que Dieu, même si je ne le vois pas, il est là et il a la capacité de me guérir. Donc, c'est ça, la foi. Donc, ça travaille dans le présent et ça prépare l'avenir. Et ce passage de chapitre 11 d'Hébreux nous dit que c'est à cause, donc sans la foi, il est impossible, au verset 6, de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, celui qui vient prier Dieu doit avoir foi. Il doit croire que Dieu existe et il fera ce qu'il a dit. Il récompensera ceux qui se confient en lui. Donc on ne peut pas venir par une logique religieuse, un respect juste religieux, de faire quelque chose pour Dieu dans le vague. Non, il faut vraiment que la foi soit sérieuse, la foi soit fondée sur le fait que Dieu existe et que nous pouvons nous attendre de lui, qu'il s'occupe de nous et qu'il accomplisse sa volonté décrite dans sa parole. Donc, on a cité quelques exemples. Après, nous reprendrons les exemples des héros en détail. Mais là, nous allons finir le chapitre 11 d'Hébreux. Donc, on en était arrivé à l'histoire de Jéricho, donc de Rahab et de Gédéon. Voilà, puisqu'on est au verset 32, il est dit: « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Donc, à cause du temps, à cause du fait que les choses, on ne peut pas les expliquer en longueur tout le temps, l'écrivain, que je pense être Paul, de l'Épître aux Hébreux, a raccourci, mais nous allons prolonger dans les jours à venir pour parler en détail de David, de Samuel, de Daniel et autres personnages. Donc là, avant de continuer le verset 32, je voudrais faire remarquer une chose, c'est que la foi en Dieu va en même temps que la conception du surnaturel. On ne peut pas croire en Dieu sans croire en ses capacités surnaturelles. Donc croire juste d'une manière scientifique que Dieu est tout-puissant, et quand on dit qu'il va faire des choses, on s'attend à ce qu'il le fasse d'une manière scientifique, qu'une femme de 30 ans, de 35 ans, on se sent libre de prier pour elle, pour qu'elle puisse enfanter. Mais lorsqu'on nous dit que la femme a 60 ans, on est complètement bloqué parce qu'on se dit scientifiquement, c'est impossible. Donc ça, ce n'est pas la vraie foi. Donc la foi en Dieu, ça va ensemble avec le surnaturel. Donc reprenez toutes les Écritures, vous allez vous rendre compte que les gens qu'on a déclarés être des gens qui ont foi, c'est parce qu'ils ont vécu des expériences surnaturelles, donc qui dépassaient le raisonnement humain. C'est pour nous dire, attention, le raisonnement humain peut nous jouer des mauvais tours en matière de foi. Nous devons, si nous croyons en Dieu, ça va avec le surnaturel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent la mer Rouge, en réalité, scientifiquement, on sait pourquoi ils sont passés par là. C'est qu'ils auraient découvert qu'à une certaine période de l'année, la mer Rouge, elle baisse de niveau de sorte qu'on peut passer à pied. Mais est-ce que vous avez déjà vu une mer baisser de niveau jusqu'à devenir sèche, jusqu'à ce que le sol devienne sec? Puisque quand vous lisez l'histoire, on dit que les enfants d'Israël sont passés à pied sec. Donc même quand un fleuve baisse de niveau, donc il disparaît pas. Il y a encore de l'eau. Maintenant, tout ça, le but, c'est quoi? C'est qu'on veut démontrer que le miracle n'a pas eu lieu. Ou alors, s'il y a miracle, c'est juste que Dieu les a fait passer à cet endroit-là, puisque Dieu connaissait qu'en ce moment-là, la mer est petite, la mer a un niveau faible en hauteur. Mais il y a un chrétien qui a dit, mais dans ce cas, comment les soldats égyptiens se sont noyés, puisque la mer a été très, très, très basse. Donc tout ça, c'est les détracteurs de l'évangile, de la parole de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas accepter de se soumettre à Dieu. Et on vous dira, oui, Jéricho, les murailles de Jéricho, aujourd'hui, on sait en réalité que Israël se trouve sur la faille syro-africaine, donc c'est une faille géologique. Donc c'est, quand on dit faille, donc c'est une zone où les tremblements de terre vont. Donc il y a des mouvements tectoniques, des plaques, puisque la terre est une écorce. Hein. La terre sur laquelle nous sommes, c'est une forme d'écorce. Et en dessous de nous, il y a des plaques d'écorce qui font que dès que ça bouge, ça crée ce qu'on appelle le tremblement de terre. Et il y a des failles, il y a des endroits un peu ouverts. C'est ce qu'on appelle des failles. Sous nous, en dessous de nous, il y a des endroits un peu ouverts. On les appelle des failles. Et c'est là que se font souvent les frictions et qui créent les tremblements de terre. Et c'est probablement qu'à cause de la faille syro-africaine qu'il y a eu tremblement de terre. La muraille de Jéricho est tombée en ce moment-là. Ce n'est pas. Mais ce qui est curieux, c'est que la muraille de Jéricho est tombée, mais la maison de Rahab n'est pas tombée, parce que la maison de Rahab était aussi sur la muraille de Jéricho. Et Rahab avait prévu qu'Israël allait gagner, mais elle allait être sauvée. Donc, curieusement, toute la muraille est tombée, dans la faille, à cause de la faille syro-africaine, mais la maison de Rahab n'est pas tombée. Tout ça, c'est l'incrédulité. Donc il y a des gens qui sont incrédules, qui ne veulent pas accepter la puissance surnaturelle de Dieu. C'est pourquoi je préviens chacun de nous. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et refuser son côté surnaturel qui dépasse la puissance et le raisonnement humain. Ça marche ensemble. Relisez tout ce qu'on a lu comme exploits, c'est des exploits surnaturels. Donc on ne peut pas parler de Dieu sans parler du surnaturel. Ça va ensemble. Donc sinon, on n'a pas la foi tout simplement. Sinon, on est qu'humain. Si on est vraiment disciple de Dieu, enfant de Dieu, nous devons croire au Dieu surnaturel. Et il y a toutes ces contradictions-là. La muraille tombe, mais Rahab reste sauvée. Donc c'est curieux. Voilà, nous continuons ensuite. Nous avions parlé de Gédéon. Gédéon qui, avec 300 hommes seulement, a vaincu plus de 10 000 hommes. Rien qu'avec 300 hommes. Nous revoyons encore le surnaturel de Dieu. Dieu agit toujours de manière à ce qu'on ne donne pas gloire à l'homme. Parce que Gédéon aussi avait des milliers de soldats. Dieu lui a dit, si vous faites la guerre avec des milliers de soldats, lorsque vous allez gagner, vous allez dire que c'est vous qui avez gagné. Moi, je veux que vous fassiez la guerre avec peu de gens. Alors, sélectionne-moi les gens. Et la sélection a amené à ce qu'il passe de plus de 20 000 peut-être à 300 seulement. Et avec les 300, Gédéon va se battre contre un camp rempli de milliers de personnes. Mais il ne se bat même pas au début. Il vient juste, il casse une cruche, il dit à l'Éternel et à Gédéon, et puis ils ont la victoire. Donc c'est une fois de plus pour nous montrer que croire en Dieu, c'est croire au surnaturel. Qui peut se risquer à aller faire une guerre comme ça, où tu ne vas pas avec une épée, tu vas juste avec une cruche avec une lumière dans la cruche, et tu casses la cruche, tu dis à l'Éternel et à Gédéon, et c'est ça la victoire, le camp ennemi est terrassé. C'est la puissance de Dieu. Donc ça va ensemble. Lorsqu'on croit en Dieu, on doit croire que ce qu'on ne voit pas peut se matérialiser. Lorsqu'on croit en Dieu, on doit croire que ce que l'avenir, le meilleur est toujours à venir. Toujours avec Dieu, c'est ce qu'on doit se dire. Et là, Gédéon a remporté une très grande victoire. Ensuite, il y a Barak. Barak qui était aussi, à un moment donné, un chef d'Israël. Lui aussi, il a su affronter des ennemis en grand nombre pour défendre et sauver Israël grâce au conseil de Déborah. Donc Déborah, qui était juge prophétesse, elle a dit à Barak, Dieu te donne la victoire, va te battre au nom d'Israël et Dieu te donne la victoire. Et vous voyez que Barak n'était même pas sûr, quand on lit le texte, il n'était pas sûr. Et il dit, mais Déborah, il faut que toi aussi tu sois avec nous. Déborah dit, mais c'est malheureux. Moi, Dieu te donne la victoire, toi tu veux qu'une femme t'accompagne. Donc forcément, sache que la victoire sera donnée. C'est ton ennemi, c'est une femme qui va le vaincre. Effectivement, l'ennemi, Sisera, le chef d'armée des Cananites, ce n'est pas Barak qui l'a vaincu, même si Barak a vaincu la guerre, dans la guerre, il a gagné la bataille, mais cet homme-là, c'est une femme qui l'a tué parce qu'il était parti se réfugier dans une maison et c'est une femme qui l'a tué. Donc, c'est des gens qui ont cru en Dieu pour recevoir des grandes victoires. Une femme te dit, prophétesse, va te battre, tu auras la victoire. Lui, il croit, il va et il gagne aussi. C'est cela, la foi. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, ce n'est pas... c'est la foi qui pilote tout. Les gens ne sont pas parfaits. Vous savez, quand vous lisez on va lire ça, Apocalypse au chapitre 2, parce qu'aujourd'hui, dans certaines églises, on va avoir des gens qui ne pêchent pas, mais qui ne produisent aucun fruit. Il faut savoir que Dieu rejette de telles personnes. Et c'est ce qu'à peu près notre église commence à croire, notre église commence à ressembler. Plein de gens qui sont corrects, mais ils ne produisent aucun fruit. Apocalypse chapitre 2. il est écrit ceci. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voilà ce que dit le Seigneur à cette église qui, en apparence, humainement parlant, est parfaite. Parce que qu'est-ce qu'on dit de cette église? Verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » C'est une église qui travaille, qui persévère même. « Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. » Donc c'est une église qui refuse la corruption. « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. » C'est une église qui refoule les faux apôtres et ne le sont pas. « Et tu les as trouvés menteurs. » Tu as de la persévérance, tu as même souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Oui, il y a même des persécutions. On est injurié, attaqué, insulté. C'est vrai, les gens sont toujours là. Il y en a qui sont toujours là, combattants jusqu'au bout. Ils ne veulent pas lâcher. Mais Jésus dit, mais quand même j'ai quelque chose contre toi, tu n'as pas le premier amour. Le premier amour avec Dieu va avec la foi. La foi et l'amour pour Dieu, ça va ensemble. Tu ne peux pas, dire que tu aimes Dieu. Mais tu manques de foi, c'est impossible. Quand tu aimes Dieu, tu veux que sa volonté s'accomplisse et forcément, cette assurance-là de son amour va te produire en toi une foi aussi en lui que ce qu'il dit est vrai et ça va s'accomplir. Donc aujourd'hui, nous avons plein de gens qui sont corrects. C'est-à-dire que dans leur vie, il n'y a pas l'impudicité, il n'y a pas le vol, il n'y a pas le mensonge, mais ils ne produisent aucun fruit. Ils n'aiment pas le Seigneur. Ils ne sont pas capables de faire les choses pour Dieu, de prendre des risques pour Dieu. Et la Bible est remplie plutôt des gens qu'on qualifierait aujourd'hui. Si on devait qualifier Rahab, on dirait mais c'est une fausse chrétienne. Parce que Rahab était une prostituée. C'est une prostituée, mais le jour où elle rencontre les envoyés de Dieu, elle dit « Oh, moi je vais en profiter pour changer de vie ». Elle protège les envoyés de Dieu. Elle a compris que ça, c'est les envoyés de Dieu. Alors que tout le peuple, les autres peuples, ce n'étaient pas des prostituées. C'était des gens qui devaient être respectables dans la vie. Mais c'est Rahab, la prostituée, qui est sauvée. Parce qu'elle a pris le risque de mourir. Parce que tu protèges les espions. Mais parce qu'elle croyait que c'est les espions de Dieu, les envoyés de Dieu, elle s'est permis... Par la foi, elle s'est permise de le protéger. Parce qu'elle a aimé la volonté de Dieu. Elle a dit, bon, c'est vrai que Israël est contre mon peuple, mais Israël, c'est le peuple de Dieu. Moi, je préfère suivre Dieu. Et j'ai foi que Dieu va leur donner Jéricho. Alors, je vais les protéger, je vais les garder. Mais Rahab, aujourd'hui, fait partie de la lignée du Messie. Donc Rahab a enfanté un enfant qui a enfanté un enfant jusqu'à enfanter Jésus. Mais c'était une prostituée. C'est pourquoi Jésus a dit, les prostituées vous dévanceront. Aujourd'hui, dans nos églises, on a des gens qui sont corrects. Vous n'allez pas les attraper à frauder dans un bus, dans un métro. Ils ne volent pas au travail. Ils payent leurs impôts. Mais ils ne sont pas prêts à prendre les risques que Rahab a pris. Pas prêts du tout. Très, très soucieux de protéger leur sécurité. Mais Jésus dit, il n'y a pas la foi. Or, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Bien-aimés, ne nous trompons pas. Éphésiens 2, quand vous lisez Apocalypse 2, vous dites, mais l'église d'Éphèse est parfaite. Mais on lui reproche de manquer l'amour pour Dieu. Attention de croire que le fait de venir régulièrement à l'église, écouter les enseignements, ne pas voler, ne pas mentir, c'est très bien. Mais si ça ne produit aucun fruit, si on devient religieux, on fait les choses pour juste maintenir notre étiquette de disciple de Jésus, ça ne compte pas pour Dieu. Parce que ça ne procède pas de la foi. La foi, bien aimé, comprenez que la foi, ça marche avec le fait d'avancer. La foi n'est pas stagnante, elle fait avancer les choses. C'est ça la foi. C'est comme si vous disiez que ma voiture a un bon moteur, mais je la garde comme une voiture de collection, je ne l'utilise pas. Mais les gens diront, mais à quoi sert ce moteur? Autant enlever le moteur et garder l'épave en voiture de collection, puisque tu ne vas jamais l'utiliser. Ta voiture est la meilleure, mais tu ne l'utilises pas. Eh bien, au milieu de nous, on a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des voitures de collection. Donc, ils sont des belles voitures, ils ne mentent pas, ils ne volent pas. Voilà, ils sont corrects, ils respectent la Bible, ils n'aiment pas les fausses doctrines. Mais il n'y a pas de fruit, pas de prise de risque. Bien aimé, vous savez pourquoi nous connaissons Daniel? Ce n'est pas parce qu'il allait au temple de Jérusalem. Il y a plein de juifs qui allaient au temple de Jérusalem. On connaît Daniel parce que Daniel a refusé de manger les mets du roi. C'est comme ça qu'on le connaît, on le connaît. On ne connaît pas Daniel parce qu'il allait au temple de Jérusalem. Il allait au temple comme beaucoup. Mais on connaît Daniel aujourd'hui parce qu'à un moment donné, on lui a présenté les mets du roi. Lui et ses amis ont refusé. Ils ont dit non, nous appartenons au Dieu vivant. Et moi, je dis souvent aux chrétiens, moi j'observe les chrétiens le jour des enterrements et des mariages. Vous allez voir les gens se transformer en autre chose. C'est pas le fait de venir à l'église qui fait qu'on a la foi en Dieu. C'est dans les moments difficiles, dans les grands événements, là on va voir, tiens, celui-là, il a fait vraiment son choix. Pourquoi on connaît Daniel? Parce que Daniel a été dans la fosse au lion, bien-aimé. On ne connaît pas Daniel juste parce qu'il a prié. On connaît Daniel parce qu'il a été dans la fosse au lion. Tous ces gens-là que nous citons ici, c'est des gens qui sont sortis du naturel pour suivre Dieu. Ce n'est pas juste des juifs qui allaient au temple. Et aujourd'hui, si on ne fait pas attention, petit à petit, nous nous transformons à l'église d'Éphèse. Où on a des gens qui sont juste bons pour venir au culte, écouter la prédication, se préserver, prier le soir avant de dormir. Mais tu n'es pas connu par Dieu, bien-aimé, je regrette. Tu n'es pas connu. Il ne te connaît pas. Tu iras peut-être au ciel, parce qu'on est sauvé par grâce. Mais arrivé au ciel, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie sur terre? Voilà. Et maintenant, tu ne peux plus faire marche arrière parce que c'est fini. Tu vas bénéficier maintenant de la beauté, de la gloire de Dieu éternellement, mais avec un petit regret. Mais j'aurais dû, moi, sachant que je profite de ça, j'aurais dû, moi, consacrer ma vie au Seigneur. J'aurais dû vivre par la foi. Donc, écoutez, lisons les histoires que nous voyons dans Hébreux 11. C'est des histoires des gens qui ont pris des risques. C'est des gens qui ont fait avancer l'histoire par la foi. C'est clair. Ce ne sont pas des gens juste qui partaient prier, faire de beaux discours. Moi, dans mon bureau, j'ai vu des gens faire de beaux discours. Hein. Ah, le Seigneur me parle, Seigneur. Il faut que je... Et pasteur, il faut que... Moi, je dis, pas de problème, on va prier pour que... trois semaines après, tu vois le monsieur tranquille dans la cafétéria manger son sandwich. Voilà. Mais dans le bureau, le Seigneur me parle, mais oui. Alors, quelle avancée tu vas faire avec lui? Bien-aimé, je ne dis pas qu'on fasse les choses par la chair qu'on force, mais c'est quand même étonnant, voilà, de voir ce que Dieu dit de l'église d'Éphèse. Vous refusez les fausses doctrines. Vous êtes des bons chrétiens. Vous allez vous persévérer. On vous critique, mais vous continuez toujours sur votre voie. Mais ce que j'ai contre vous, c'est que vous n'avez pas d'amour pour moi. Vous faites les choses pour être des bons disciples, des bons chrétiens, mais vous n'avez pas d'amour. Voilà ceux qui ont l'amour pour Dieu. On est en train de citer leur nom. Mais maintenant, je vous rappelle que si on devait les comparer aux gens d'Éphèse, ces gens-là vont être considérés comme pécheurs. Vous voyez, je vous ai cité l'exemple de Barak. C'est un peu heureux, puisque Déborah lui dit, va te battre et tu vas gagner. Barak dit, mais Déborah, toi aussi viens. Mais même Déborah est fâchée, dit, mais toi, tu es un homme, tu veux qu'une femme vienne te soutenir. Et elle lui prophétise que d'ailleurs, cette victoire, la totale victoire, ça ne viendra pas de toi, ça viendra d'une femme. Effectivement, c'est une femme qui va tuer le général d'armée de l'autre camp. Donc, c'était des peureux, mais on les cite pourquoi? Parce qu'à un moment donné de leur vie, Ils ont pris des risques pour Dieu par la foi. L'apôtre Paul explique, il parle d'Abraham dans un autre passage, je crois aux Galates. Il dit, est-ce qu'Abraham était un homme bon? Non, il n'a pas été un homme bon. Humainement parlant, si on doit citer, il a pris une femme alors qu'il en avait d'autres. Il en a pris encore une autre que Tura. Voilà, et à un moment, il a menti. L'apôtre Paul dit, mais est-ce que c'est un homme bon? Non, mais s'il a été jugé digne par Dieu, c'est parce qu'il avait la foi en Dieu et qu'il a pris des risques pour Dieu. Il était chez lui, tranquillement en sécurité, comme la plupart d'entre nous. Dieu lui dit, va, sors de chez toi, il est sorti. Voilà, c'est pourquoi son nom est dans la Bible. C'est cela, c'est curieux, quand vous lisez les histoires de toutes ces personnes qui sont citées là, David, n'en parlons pas. Dieu dit même que c'est l'homme selon mon cœur. Mais les gens disent souvent, qu'est-ce qu'on retient de David? Ah, il est sorti avec la femme d'autrui. C'est ce qu'on retient de David. Mais lisez tranquillement l'histoire de David. Vous allez comprendre pourquoi Dieu sort de sa bouche. Celui-là est l'homme selon mon cœur. Lisez ça tranquillement. C'est quelqu'un qui a pris des risques pour Dieu. C'est quelqu'un qui a... C'est-à-dire qu'on vient le tuer par Saül. Mais lui, il peut tuer Saül, il ne le tue pas. Qui va faire ça? Il dit, ça c'est loin de l'Éternel, je ne touche pas. Qui va faire ça? C'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il pouvait risquer sa vie pour Dieu. On ne peut pas dire, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On ne peut pas dire, on aime Dieu, mais on ne veut pas risquer sa vie pour Dieu. Non, ce n'est pas le véritable amour. Et nous sommes en train, petit à petit, de nager dans la logique d'Église d'Éphèse. Beaucoup de gens corrects, mais qui ne portent pas du fruit. Corrects, mais qui ne prennent pas de risques pour Dieu. Corrects, mais qui n'ont pas foi en réalité, en Dieu. Et bien, je vous dis, c'est malheureux. Donc, il faut faire attention. Les gens qui ont été, ce n'est pas pour encourager à la faiblesse ni encourager au péché, mais les gens que Dieu reconnaît dans ces textes que nous lisons, c'est des gens qui étaient faibles, des humains faibles, mais qui pouvaient prendre des risques avec Dieu. Des gens comme Élie, il se permet de dire que pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Ça, c'est prendre des risques, parce que ça ne s'accomplit pas. Pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Mais pourtant, on a bien vu que ce n'était pas un homme courageux, parce qu'il a fouillé une femme. Mais au moment où il devait prendre des risques pour son Dieu, il les a pris. C'est cela. Et au moment où il devait sacrifier sa vie, il a sacrifié sa vie pour le Seigneur. Et donc il y a Gédéon, verset 32, Barak, Samson. Les gens, quand on parle de Samson, ils pensent à quoi? À Dalila. Ah, Samson était faible, Dalila a pu l'avoir. Mais bien aimé, lis l'histoire jusqu'au bout. Donc beaucoup sont restés avec des clichés. Lis l'histoire jusqu'au bout. Vous allez voir que il est dit que pendant que Samson, je crois qu'on a même prêché là-dessus un jour, pendant qu'il était en prison, il est en train de pousser la meule, ses cheveux étaient en train de repousser. Et quand ses cheveux ont repoussé, Samson n'a pas demandé à être libéré, à voir pour revenir à une vie humaine normale. Il a dit, Seigneur, permets juste que j'achève ma mission. Que je batte les Philistins, cette fois-ci, une fois pour toutes. Et qu'est-ce qui est dit? Que ce jour-là, quand il a renversé le poteau qui soutenait le temple de Dagon, il a tué plus de Philistins que pendant qu'il était fort, vivant, libre. Mais c'est quelqu'un qui est parti jusqu'au bout de sa mission. On dit à M. Samson, Dalila, non, attention bien-aimé, il aimait Dieu au point... Il a dit, laisse-moi mourir avec les Philistins. Il n'a pas cherché à sortir. Il a dit, laisse-moi mourir en te servant. C'est ça, ce sont les gens valables. Il faut que des gens comme ça soient ton exemple. Ce n'est pas, la vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de venir, chanter, prier. Non, c'est une histoire de prendre, de faire avancer les choses, de dire non, c'est l'autre Dieu qui est grand. Oui, quelqu'un voulait poser une question?
En fait, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais je crois que Pour ma part, hein, je pense qu'on est, je suis tombée dans un piège de, on est dans, tellement dans un monde où l'Église visible est tellement faux, enfin faux. Il y a tellement de fausseté, il y a tellement de contre-témoignages que, pour ma part, c'est comme si j'étais restée un peu plus sur le témoignage à apporter, quoi, rester dans la Bible, rester. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, il y a plus, enfin, il y a toujours cette foi au Seigneur, mais c'est vrai que je suis restée sur le témoignage, c'est-à-dire il faut vraiment avoir le témoignage pour montrer que vraiment on est du Seigneur, on est de Dieu et vraiment faire la différence. Et c'est vrai qu'on peut tomber dans ce piège, pour ma part, tomber dans ce piège d'être entre guillemets un bon chrétien, quoi.
Oui, oui, puisque voilà, la foi c'est quelque chose qui fait avancer les choses, ce n'est pas juste quelque chose qui nous maintient dans la vérité, parce que Dieu cherche des serviteurs, il n'en trouve pas. Nous continuons, il y a Jephté. Jephté, c'était le fils d'une prostituée. Fils d'une prostituée, Jephté. Mais à un moment donné, les enfants d'Israël viennent le voir pour dire, on a compris que seul toi, tu peux être notre chef. Jephté n'a pas dit, ah, j'ai eu une enfance difficile, j'ai besoin qu'on m'encourage. Comme on entend aujourd'hui donc, beaucoup de chrétiens, j'ai besoin qu'on m'encourage. Ah, mais Jésus ne suffit pas pour t'encourager. Moi, j'ai dit, il paraît qu'on sera témoin. Le jour du jugement, Dieu posera des questions. Ah, mais Jésus n'était pas suffisant pour toi. Donc, il fallait que quelqu'un te fasse des bisous pour que tu te sentes fort. Oui, question.
Oui, pasteur. Et j'avais posé la question sur la foi que vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit que donc, dans nos vies, et bien qu'on a la foi, parce que bon, la foi, puisqu'on a la foi, puisque des portes s'ouvrent, non. Moi je veux dire, puisqu'on a la foi, puisque des portes spirituelles s'ouvrent aussi davantage. Alors, est-ce que j'allais poser la question, et est-ce qu'il faut qu'il y ait dans nos vies, qui, comment je veux dire, dans nos vies spirituelles, il faut qu'on puisse traverser des épreuves surnaturelles pour qu'on soit confirmé devant Dieu. S'il n'y a pas eu des choix, disons, voilà, des choix surnaturels, et s'il n'y a pas eu des choix surnaturels, donc nos foi ne sera pas
favorable à Dieu. Ah non, je n'ai pas dit ça. Je veux dire que on sera confronté à des prises de risques où Dieu va intervenir d'une manière surnaturelle. Voilà. Donc ce n'est pas... donc on s'est confronté. Nous, on a eu ce problème-là à notre dernier voyage en Israël. On arrive à l'aéroport, on nous dit qu'il y a grève générale en Israël, donc le ciel israélien est fermé, donc aucun avion ne décolle. Nous, on a dit non. On a commencé à louer le Seigneur à l'aéroport. Beaucoup de gens, même des Juifs, ils sont rentrés chez eux. On a dit, tout le monde rentre chez lui. Ce n'est pas la peine. Sachez que ce n'est pas la peine. Tout le monde rentre chez lui. On a refusé. Il y a quelqu'un qui faisait des coups de fil. Et nous, le groupe qui ne faisions pas de coups de fil, ben nous étions en train de prier, de chanter, de confesser qu'on partira de ce lieu. Et à la fin... Vous savez qu'on était le troisième vol qui ratait. Donc, il y avait deux vols avant nous. Donc, même si un avion s'est trouvé, on allait d'abord appeler les deux avions, donc les gens qui ont raté le vol avant nous. Nous, on était le troisième vol qui avait loupé. Mais je peux vous dire qu'on faisait partie du groupe. Ils nous avaient dit, on ne prendra que les Juifs parce qu'ils doivent rentrer chez eux. Vous, rentrez chez vous à la maison. Nous, on est restés à l'aéroport. On a refusé de rentrer chez nous parce qu'on s'est dit, parmi nous, il y a des gens qui viennent de Suisse. On voit mal Dieu les laisser tomber. Donc, on s'est dit, non, on refuse et on loue le Seigneur, on prie. Et à la fin, on vient nous annoncer, bon, votre groupe de 19 fait partie du groupe qui va partir parce qu'un rabbin est mort, on doit rapatrier rapidement son corps. Vous allez profiter de cet avion-là. Voilà, donc c'est le surnaturel de Dieu parce que tu refuses, tu dis que ton Dieu est grand et tout puissant. Parce que ce qui est simple, c'est de rentrer chez soi, de prendre, allez bon, on n'a pas le choix, on rentre, on a dit non. Donc jusqu'à la dernière minute, on ne rentre pas Et parce que notre Dieu Tout-Puissant, il y avait un groupe de 14 qui étaient là aussi, qui devaient partir, ils étaient à 40 environ. Ils sont rentrés tranquillement. Moi, je dis, on saura qui prie Dieu en vérité. Et ils sont repartis le mercredi, nous, on est partis le lundi. Parce que nous croyons que Dieu est Tout-Puissant. Donc le rabbin peut-être a été tué pour nous. Voilà, entre parenthèses, oui. Oui. Quelqu'un prend le micro? Non, on continue. Voilà, donc c'est que Dieu nous fera passer par des épreuves où nous devrions montrer que nous croyons au Dieu surnaturel. C'est clair. Sinon, on est dans la religion. On est dans la religion. Nous devons comprendre les gens. Parce que quand vous lisez ces histoires, je vous le répète, ce n'est pas des gens costauds. D'ailleurs, notre frère Jacques, quand il parle d'Élie, il dit « Élie était un homme comme nous ». Mais il a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi, ça n'a pas plu. Après, il a prié pour qu'il pleuve, ça a plu. Il insiste pour dire qu'il était comme nous. Donc, quand vous lisez l'histoire des Hébreux 11, mais c'est des gens simples, peureux parfois, mais qui étaient prêts à risquer leur vie pour Dieu. Parce qu'ils aimaient Dieu, ils avaient le sens de l'honneur de Dieu, ils avaient, bref, foi en Dieu. Tout en restant faibles, ils avaient foi en Dieu. C'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui fait que Dieu les met ici. Et comme un certain serviteur de Dieu dit, il dit, mais il y a des gens qui font tout correctement, mais ils ne produisent aucun fruit. Ça, ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu veut des gens qui ont foi en lui. Voilà, c'est ça quoi.
Pasteur, mais ces personnes ont eu des situations, c'est-à-dire que on peut vivre une vie chrétienne sans avoir de situation où on doit...
C'est impossible.
C'est impossible. C'est impossible.
C'est impossible, c'est qu'on les fuit.
D'accord, ok.
Nous, si on pouvait considérer scientifiquement, il y a grève générale en Israël. Allez, on appelle, je devais appeler Christian, qui organise un convoi pour venir nous récupérer. On pouvait fuir cette épreuve-là. Dire, bon, c'est quand même scientifique qu'il y a une grève en Israël, le ciel est fermé, on ne va pas ouvrir le ciel que pour nous. Nous, on a dit, oui, on peut ouvrir pour nous. Voilà. Si tu fuis, effectivement, tu diras, mais dans ma vie, il n'y a pas de difficultés. Non, c'est parce que tu les fuis avec astucieusement. Voilà, c'est tout. Tu les fuis, oui.
Donc en fait, quand tu parles de prendre de risques, c'est surmonter les épreuves, en fait. C'est ça.
C'est accepter le chemin par lequel Dieu te fait passer en croyant qu'il va te délivrer. C'est ça, prendre des risques.
Ok.
Bien aimé, parmi nous, il y avait une personne qui avait reçu, il y a 2 ans, une interdiction de séjour en Israël pendant 10 ans. Mais nous, on ne savait pas. On ne savait pas. Elle a menti à notre association. Elle est entrée quand même dans notre voyage. Et on arrive, nous on ne comprenait pas, chaque fois on l'a bloqué par les services de sécurité, que ce soit à Roissy, que ce soit en Israël. Bon, moi j'ai dit, mais attends, quand même, nous on ne va pas, nous on était tous, on était sortis de l'aéroport, il n'y avait qu'elle qui était bloquée, et restait encore entre les mains des services de sécurité. J'ai dit, mais non, on ne va pas attendre indéfiniment. Moi j'ai dit, Seigneur, quand même tu es tout puissant, cette personne-là, on ne connaît pas sa vie, mais du moment qu'elle est avec nous, elle doit sortir. Je suis parti un peu me plaindre. On a dit non, je n'ai pas le droit même d'entrer là-bas. Et on a appelé notre voyagiste. Il a appelé. Elle est sortie, bien-aimée. Et les gens qui connaissent l'histoire, sa famille, les membres de sa famille nous disent, mais on ne sait pas qu'est-ce que vous avez fait, mais on ne pouvait pas penser qu'elle puisse entrer. C'était impossible parce que les services de sécurité israéliens ont décidé que pendant 10 ans, elle n'entrera pas, mais elle est entrée. Voilà, bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Mais maintenant, on peut fuir toujours ça. Oui. Oui, oui.
On peut fuir, mais parfois, pour la même situation, par exemple, à l'aéroport, mais il y a des personnes qui auraient pu dire, bon, c'était pas la volonté de Dieu. Dieu voulait...
Mais il faut analyser tout ça. Tu as raison. Il faut analyser tout ça. Et puis quand tu analyses, tu dis, tu fais un examen de la situation pour dire, mais tiens, il y a telle chose qui montre que c'est la volonté de Dieu, alors je vais. Ou bien il y a telle chose qui montre que, ah, mais ça c'est la réponse de Dieu, ce n'est pas sa volonté. On annule. Voilà. On analyse tout ça et puis on fait un choix. Il faut analyser tout ça. Voilà.
Et ma deuxième question, c'est parfois dans notre vie, j'ai envie de dire de tous les jours, par exemple, je ne sais pas, si je vais aller à Paris, je vais prendre le chemin le plus court ou celui où il y a le moins d'embouteillages. Donc dans notre vie chrétienne aussi, parfois, c'est, on essaye, entre guillemets, d'éviter, je ne sais pas si inconsciemment ou consciemment, on évite l'épreuve en essayant de se préserver de certaines choses, enfin voilà, on se préserve, je sais pas moi, comme tu dis souvent, le micro, le pouvoir, les choses comme ça, bah, tu passes pas devant parce que tu sais que t'aimes bien passer devant, c'est que ça te fait quelque chose qui te plaît à la chair, donc tu évites de passer devant, par exemple. Tu vois,
mais c'est ça, c'est pas la même chose. Là, c'est un problème. Quelqu'un veut une gloire. Mais là, nous, on ne parle pas de ça. Nous, on parle du fait qu'on est conscient que Dieu est avec nous. Il est le Tout-Puissant. Alors, ça passe ou ça casse. Voilà, mentalité de bagarre. Donc, c'est cela. Donc, ça passe ou ça casse. Pas question de capituler sans que Dieu ne me dise tu capitules. Voilà. Donc, ça passe ou ça casse. C'est cette mentalité-là.
De quelque chose, c'est quoi? Tu veux ou c'est toi qui veux? Ou c'est nous qui voulons? C'est la chair qui veut ou c'est l'esprit qui veut?
Non!
Ou c'est à pas aller. Par exemple, je racontais tout à l'heure avec Sophie, elle me racontait une petite anecdote, et puis je lui disais, ah, heureusement que tu n'as pas été voir la personne, de toute façon, tu te serais fâché, ou quelque chose comme ça. Donc, parce que.
Mais non, mais là, tu obéis au Saint-Esprit parce que tu te serais fâché si tu avais vu la personne. On n'est pas en train de parler du fruit de l'esprit. On est en train de parler, de faire avancer les choses avec Dieu. Voilà. C'est ce dont on est en train de parler. On ne parle pas de ton comportement. Oui, mais ça. Voilà.
Ensemble, quand tu veux avancer avec le Seigneur, tu es obligé de passer par des épreuves qui te poussent dans la patience, même quand tu dis dans la persévérance, des choses comme ça, comme tu as prié. Vous avez prié, vous avez persévéré, vous n'avez pas lâché pour partir. Donc, forcément, que ça passe par. Enfin, je ne sais pas, je me dis que c'est petit à petit. Bon, ça, c'était quelque chose de. Moi, je sais que j'aurais dit, bon, c'était pas la volonté. Analyser, mais je me dis que, enfin voilà, quoi, avec Dieu, c'est.
Mais là, toi, tu es en train de donner des exemples de comportement. Peut-être que il y a quelque chose qui t'a fâché et tu as voulu voir la personne, tu t'es retenu parce que tu t'es dit si je pars, je vais m'éclater. Mais après, tu as prié et Dieu a touché son cœur. Moi, je dis plutôt, ça, c'est un exemple de foi. Tu pries que Dieu touche son cœur. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle de faire avancer les choses. Voilà, par amour pour Dieu, et parfois tu dis que ça doit avancer parce que notre Dieu est tout-puissant, je l'aime. Je suis attaché à son destin. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Je suis attaché au destin de Dieu, je refuse que Dieu soit déshonoré. Voilà, oui.
Oui, je voudrais que tu expliques un petit peu, que tu fasses un petit peu une différence, parce que tu parles de chrétiens qui vont à l'assemblée, qui se purifient, etc., mais qui portent pas quelque part du fruit. Mais c'est pas parce que tu vis, je sais pas, un miracle avec Dieu, parce que il y a eu un avion pour vous, que on porte du fruit. Enfin,
comment dire, c'est des exemples qui montrent le. Oui, mais Mylène, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que quand tu regardes Daniel, mais c'est parce que justement, ils ont refusé de se prosterner devant la statue d'or, ses amis, qu'ils ont porté du fruit. C'est un événement qui demandait de la foi. Donc, ce n'est pas une foi qui est venue par hasard. C'est une foi qu'ils ont construite dans leur vie, dans leur relation avec Dieu. On le voit dans les événements du passé où ils ont refusé de manger les mets du roi. Et à partir. Parce que quelqu'un peut dire aussi, mais Dieu ne me confronte pas à ça. Mais parce que Dieu connaît ton cœur, que tu es religieux, il ne va pas te confronter à ça. Non, mais quand Dieu sait que tu as vraiment foi en lui, que tu marches selon la foi, il va t'amener au combat. C'est clair.
Oui, en fait, je suis d'accord, mais c'est parce que, en fait, je voulais qu'on examine aussi nos vies, quoi. Est-ce qu'on porte du fruit? Mais l'exemple que tu prends par rapport
non, mais,
à.
Non, mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas donné exemple du genre. Dieu m'a donné une voiture alors que je n'en avais pas, parce que c'est l'exemple qu'on a aujourd'hui parmi les chrétiens. Le Seigneur est avec moi. Vraiment, on manquait de voiture. Dieu a touché un tel. Dieu. Oh, bien-aimé. Jésus dit, mais même les païens ont ça. Moi, ça m'énerve. Donc, même les païens ont des exemples comme ça pour dire, mais tiens, j'ai ramassé 10 euros. Voilà. Donc, c'est pas. Donc, nous, on parle du fait de faire avancer le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu a un boulot quelque part. Tu fais avancer le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de dire, mais oh, Dieu nous a donné une maison, il nous a donné une voiture, il m'a donné un enfant. Mais oui, d'accord, mais nous sommes dans la question de Anne. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, il te servira. C'est ce que nous, on cherche. Qu'est-ce qui avance le royaume de Dieu? On n'est pas là à dire, parce qu'en matière de bénédiction humaine, Dieu nous bénit tous. Il dit que même les païens, il leur donne. Mais là, la question est-ce que tu fais avancer le royaume de Dieu? Voilà. Est-ce que tu prends des risques pour faire avancer le royaume de Dieu? Est-ce que tu es lié au destin, au dessein de Dieu sur terre? C'est ça la question. Ces gens-là étaient des peureux, comme je le dis. C'était des gens qui tremblaient parfois. C'était parfois, comme on a dit, parler de Rahab. C'était une prostituée. Avant de connaître Dieu, c'était une prostituée. Mais le jour où il est face à Dieu, il se rend compte qu'il y a une voie plus élevée que la voie de gagner l'argent. C'est la voie d'Israël. Elle se lie au destin d'Israël. Elle fait un acte de foi. Elle protège les espions. Mais cet acte-là a sauvé toute sa famille et l'a fait entrer dans la lignée du Messie. Mais c'est un acte qui est long. Ce n'est pas un acte comme juste un moment donné d'illumination. Non. Elle a eu le temps de réfléchir pour garder les espions chez elle. Elle a pensé, elle a réfléchi, elle a pris des risques. Parce que si on avait trouvé les espions, on l'a tué. Mais parce qu'elle avait foi. Nous revenons toujours à la foi. Parce qu'elle avait foi en Dieu, elle a pris ce risque-là. Parce qu'elle aimait Dieu, elle a eu foi. Oui.
Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on doit, par exemple, comment est-ce qu'on fait en fait pour comprendre les choses? Parce que là, dans ce cas-là, par exemple, quand il y a des obstacles, quand est-ce qu'il faut peut-être persévérer et dans d'autres cas se retirer?
Non, c'est pas. C'est savoir quel est le dessein de Dieu. Comme Nelly a posé la question, j'ai dit, mais l'avion ne venait pas. Oui, ça pouvait être pas aussi la volonté de Dieu de ne pas voyager. Ça pouvait être la volonté de Dieu qu'on ne voyage pas. Oui, on analyse la situation, on prie pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Et quand on se rend compte que non, la volonté de Dieu, c'est qu'on s'en aille, ce voyage-là a été prévu, ben, là, on s'engage dans une voie. Aujourd'hui, les chrétiens préfèrent ne pas s'engager dans une voie et laisser les choses tomber sur eux, les subir tout en restant pur selon les 10 commandements. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne tape pas, je ne critique pas. Bon, mais les choses sont ainsi. Non, nous on refuse. Voilà.
En fait, la question c'est comment on fait pour voir comme Dieu voit et interpréter comme lui l'interpréterait. Parce que, par exemple, on aurait pu aussi se dire, tiens, Dieu permet que les avions décollent pas parce que il y a peut-être un attentat, je ne sais pas, par exemple, à Roissy-Charles de Gaulle, et du coup, Dieu veut nous protéger. Enfin,
alors, moi, c'est des suppositions. Voilà, c'est une supposition. Il faut arrêter avec les suppositions. Donc, il faut chercher qu'est-ce que Dieu veut pour toi et t'engager dans cette voie-là. Donc, maintenant, ces suppositions-là nous font fuir le combat facilement. Il y a un verset de Proverbe 26 qui dit, le paresseux dit, il y a un lion dans la rue. Une façon de dire, bon, puisqu'il y a un lion dans la rue, moi, je reste chez moi. Mais l'homme de foi dit, il y a un lion dans la rue, pour que je sois en paix dans la rue, je vais d'abord tuer le lion, comme ça je me promène tranquillement. Ça c'est l'homme de foi. Mais le paresseux dit, ah ben il y a un lion dans la rue, hein, comprenez-moi, donc moi je reste à la maison. Mais l'homme de foi dit, il y a un lion dans la rue, il m'empête, il me dérange. Je vais d'abord le tuer, comme ça je suis libre de me promener. C'est ça les deux attitudes, c'est ça la différence entre les deux attitudes. Donc c'est-à-dire savoir quel est le dessein de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut.
C'est vrai qu'on peut parler de supposition, mais je peux prendre un exemple concret. On a par exemple, je pense qu'il y a dû y avoir des cas comme ça, par exemple, quand il y a eu l'attentat du 11 septembre, quand il y avait des chrétiens qui ont dû monter dans les tours et que certainement que Dieu a peut-être a permis des circonstances pour qu'ils soient bloqués, je ne sais pas, par exemple, dans le taxi ou enfin la voiture.
Mais eux, ils ne savaient pas. Ah voilà, mais là, quand on le sait avant, on suppose. Ça, c'est différent. Mais eux, ils ne savaient pas. Parfois même, ils ont tout fait pour entrer, mais Dieu les en a empêchés miraculeusement. Après, ils ont su, ah tiens, Dieu m'a empêché à cause de ça. Voilà. Mais maintenant, refuser le combat parce qu'il y a un lion dans la rue, on dit, ah mais je ne sors pas. Voilà, ça c'est beaucoup de chrétiens le font. Bon, comprenez, voilà, c'est bloqué. Bon, je ne fais rien. Non, non, non. Donc, on doit le savoir par après. Tiens, si Dieu m'a bloqué, c'est parce qu'il savait qu'il y avait telle chose. Oui, oui.
Mais en fait, c'est à peu près la même question. Parce que j'arrive pas à comprendre en fait. Parce que, je reprends un exemple, mais c'est par exemple l'année dernière. Je crois que c'était la fête de la musique. Quand par exemple, je sais pas, tous les éléments étaient contre nous, le temps, tout ça. Mais nous, on est quand même partis. Moi personnellement, j'ai pas compris pourquoi.
Qu'on est parti quand même.
Parce que je me suis dit, c'était pas la volonté de Dieu. Si,
mais qu'est-ce que tu as vu après?
Non, mais
les éléments se sont calmés.
Oui, voilà. Mais
pourquoi nous on est partis? On n'a pas vu des raisons pour lesquelles on ne doit pas partir. Parce que notre Dieu, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Donc ce n'est pas parce que la météo nous annonce la pluie que nous, on va obéir à la météo. Nous, on va obéir au Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. J'ai dit en introduction qu'on ne peut pas croire en Dieu sans croire au Dieu surnaturel, qu'il est surnaturel. Donc, c'est contradictoire. Soit tu crois en Dieu, tu dois croire en tout ce qu'il dit. Il dit qu'il est tout-puissant, celui qui a fait les cieux et la terre. Tu dois croire. Souvenez-vous, dans Hébreux 11, c'est écrit, c'est par la foi que nous croyons que les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Donc, ça nous incite à mettre l'invisible au-dessus du visible. C'est lié, la foi est liée au fait que l'invisible soit au-dessus du visible. Donc, on nous annonce la pluie. Mais on dit, mais non, nous on sait qu'un concert est prévu. Donc, on refuse de céder à l'annonce de la pluie. On préfère écouter Dieu. Et Dieu ne nous dit pas d'arrêter. Eh bien, on y va. Voilà. Même s'il faut que ça pleuve, mais on y va. Parce que vous savez, quand on prend de telles décisions, comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas 100% forts. Vous vous souvenez des amis de Daniel? Ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Mais même si notre Dieu ne nous délivre pas, ils ont dit, notre Dieu nous délivrera. Mais sinon, donc même au cas où il ne nous délivrait pas, nous refusons quand même. Donc c'est pareil. Nous refusons le dictat des éléments naturels comme des éléments humains parce que Dieu est au-dessus de ces éléments-là. C'est tout. Oui?
Dans une situation, tu as besoin d'une guérison. Moi, je sais que Dieu guérit. Mais je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre. Il peut permettre que tu passes au travers la chose sans faire... partir le bobo
tout de suite. Mais il te le dira.
Donc, toutes les personnes qui n'ont pas le instantanément guérison ou miracle, c'est pas, ils ont été avertis que c'était pour durer.
Non, s'ils n'ont pas cherché à savoir, Dieu ne va pas leur parler. Quelqu'un qui a la foi, il dit, Dieu guérit-moi. Deux jours après, il n'est pas guéri. Il a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas guéri? Voilà, et Dieu lui répond.
Ok, mais bon, disons qu'il lui demande et Dieu lui répond, ça va être par la manière humaine.
Dieu répond que ça va être par la manière.
Oui, ça ne sera pas moi qui va directement te guérir comme un miracle. Tu vas avoir une
chérie. Alors, nous cherchons la guérison, nous ne cherchons pas un miracle forcément. Nous sommes en train de prêcher parce que les avions dont on vient de parler, ce n'est pas un avion qui a été créé par miracle, c'est un avion qui existait. Voilà. Donc, on veut dire qu'il y a la solution qui va se présenter. Voilà. On ne cherche pas forcément qu'il y ait quelque chose dans le vide qui se crée. Mais la solution va se présenter.
Disons que tu as besoin d'une chirurgie. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas la chirurgie.
Non, j'ai besoin d'une guérison.
Ok, j'ai besoin d'une guérison. Mm. Soit que j'ai la guérison de toi, ou soit que j'ai la chirurgie qui va faire que ça va aller mieux après. Ben, la personne doit peut-être avoir une opération, elle a peut-être une maladie de cœur.
Mais quelle est la volonté de Dieu?
Ben, que la personne soit guérie, mais peut-être que la personne devrait passer par les chirurgiens ou...
Mais là, c'est comment dire? Nous, on ne sait pas.
Ben, c'est ça. Donc, on dit, Dieu, fais ce que tu veux, mais je crois que tu peux me guérir.
Non? Ah, tu veux qu'on donne une proposition de prière?
Ben,
non, moi, je dirais à quelqu'un qui est malade... qu'il prie Dieu pour qu'il soit guéri. Maintenant, si on lui propose autre chose, qu'il pose la question à Dieu s'il doit accepter la proposition. Tant que c'est une proposition correcte, c'est que ce ne soit pas la magie, ni l'homéopathie, ni l'acupuncture, tout ça. Mais tant que c'est une proposition qui est honnête, mais il prie Dieu pour savoir si c'est cette proposition-là qu'il faut suivre.
Parce que Dieu ne va pas toujours faire les choses surnaturellement. Il va des fois utiliser les hommes.
Mais effectivement, nous, on parle de solutions. On ne parle pas de... On dit que Dieu peut faire au-delà de ce que l'homme imagine. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on veut dire quand on dit que Dieu est surnaturel. C'est-à-dire que l'homme a des procédés, des processus qu'il a inscrits dans sa tête. Et quand ce processus-là lui annonce que c'est impossible, il s'arrête. Nous, on veut que l'homme comprenne que Dieu peut faire au-delà. Mais on a des cas ici où des gens qui ont été soignés par des médecins, et les médecins étaient étonnés de voir que les choses se sont passées différemment des autres malades. Avant, là. Donc, il y a eu le surnaturel, mais les médecins étaient au milieu de ce surnaturel-là.
Et justement, pour finir, si Dieu décide que tu passes par les mains des hommes, c'est pas un manque de foi, parce que la foi...
Ah non, on n'a pas dit ça. On veut seulement que l'homme ait foi en Dieu. Aie foi en Dieu que ton problème sera résolu. Voilà. Aie cette foi-là. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Oui.
Oui, pasteur, je veux arriver à savoir si la foi peut marcher avec la responsabilité. Parce que je prends un peu mon cas où je dis que j'étais au pays. Il y a eu des choses que j'ai vécues là-bas avec d'autres frères et tout. J'ai eu la conviction-là de prolonger mes séjours et même de rester pour essayer de rester avec quelques frères et quelques jeunes là-bas. Mais après, je me suis dit, bon, côté responsabilité, j'étais venu pour faire telle chose et repartir. Donc, dans cette conviction-là, les démarches que je voulais faire sur place, je n'ai pas eu la force de le faire. Je suis venu ici. Je me suis dit, bon, je viens, je le fais ici et je vais voir la manière que Dieu va faire. Et j'arrive à le faire et tout, mais je trouve que les choses sont toujours bloquées. Et cette lourdeur-là, toujours de dire, voilà, il faut essayer de repartir, d'aller voir ces gens-là et pour essayer de travailler avec le peu que j'avais à leur dire, est toujours là. Mais non.
Oui, mais bon, ton explication est un peu longue. Bon, je ne sais pas comment répondre exactement parce que tu parles des gens, tu parles des choses.
C'est de côté où il faut rester pour travailler pour le Seigneur. Cette conviction-là, je l'ai eu au pays pour rester et travailler pour le Seigneur.
Ah, mais voilà,
côté
c'est plus
responsabilité,
clair.
Je dis non, j'étais parti pour faire autre chose et je dois revenir pour essayer de continuer la chose que je voulais faire parce qu'en me disant si je reste, on va me voir, on va me dire voilà, il est irresponsable. Est-ce que la foi peut marcher avec la responsabilité de dire voilà,
non, j'ai la foi marche plutôt plus avec l'irresponsabilité, quoi. Donc les gens du monde, quand tu as la foi, ils vont te traiter en général d'irresponsable. Voilà. Mais je ne dis pas que pour ton cas, c'est la volonté de Dieu, mais je dis que la foi va souvent plutôt avec l'irresponsabilité plutôt qu'avec la responsabilité. Voilà. Puisque la foi, c'est croire que Dieu peut faire au-delà de l'entendement humain. C'est ça la foi. L'assurance des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, nous avons d'autres... Nous avons des responsabilités. On ne peut pas dire, ben moi j'ai la foi, finalement tes enfants meurent de faim. Ah non, Dieu dira, tu es responsable de nourrir tes enfants. Donc si les enfants meurent de faim, c'est que la voix que tu as entendue, ce n'était pas de moi. Voilà. Donc on a des responsabilités, mais ces responsabilités-là doivent être assumées. On ne peut pas prétexter de la foi pour ne pas assumer nos responsabilités. Mais souvent, quand on marche par la foi, les gens, au début, nous traitent d'irresponsables. Parce que les gens qui nous voyaient rester à l'aéroport, alors que tout le monde rentrait, même les Juifs rentraient chez eux, dans leur tête, ils disaient, voilà ces illuminés, puisqu'on chantait. Ils devaient se dire, ils peuvent toujours chanter. Mais après, quand on prend le vol, ils se disent, ah, tiens, donc ils étaient sérieux dans leur affaire. Voilà. Donc, souvent, quand on a foi, on nous traite d'irresponsables. Mais n'empêche que nous devons... parce que moi, j'avais déjà, en tant que responsable, contacté les gens de Rouen pour leur dire, c'est possible qu'on se rabatte à Rouen, puisqu'on a des gens de Suisse. C'est possible qu'on se rabatte à Rouen pour dormir, le temps d'attendre le vol le mercredi ou le mardi. Donc, en tant que responsable, je me suis dit, mais tout ce troupeau-là, il faut que je trouve une solution. Donc, j'appelle les gens de Rouen, le pasteur Davis, j'appelle Christian, j'ai dit, ben, c'est possible qu'on vienne se rabattre là. Là, on lutte pour le moment en esprit, dans la prière, mais prévoyez que nous puissions venir à Rouen et dormir là-bas. C'est ça, en tant que responsable, on prévoit ce qu'un humain peut prévoir, mais tout en restant dans la foi, et pendant qu'on est dans la foi, on est traité d'irresponsable. On doit assumer ses responsabilités, oui.
Si j'ai bien compris, dans la prise des risques, est-ce qu'on peut se dire, comme on connaît la volonté de Dieu, on sait que Dieu veut que tout homme soit sauvé, et on s'est dit, il y a tel endroit, moi je vais y aller, Dieu ne m'a rien dit, je vais quand même à tel endroit travailler.
Alors Dieu ne t'a rien dit, tu bases ta foi sur quoi?
Sur Dieu veut que tout homme soit sauvé. homme soit sauvé, donc il y a des gens à sauver là-bas, j'y vais.
Alors, Dieu, mais Dieu ne t'a rien dit. Dieu, si Dieu veut que tout le monde soit sauvé, donc tu pries. Maintenant, si tu as la conviction dans ton cœur que c'est Dieu qui t'appelle, ah ben là, tu écoutes la conviction, c'est là la foi. Mais vouloir obliger Dieu à faire sous prétexte qu'il a dit qu'il doit sauver tout le monde, ça c'est obliger Dieu. Nous, on doit suivre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit nous suivre. Voilà. Donc, il y a la conviction qui doit motiver tout, la conviction dans le Seigneur. Ça doit tout motiver. Ok. Oui.
Je reviens sur l'histoire d'irresponsabilité. Donc au final, on est quoi? On est responsable quand on est irresponsable selon les hommes ou pas? Est-ce qu'on prend nos responsabilités quand on devient irresponsable? Comme tu dis qu'on est irresponsable, en fait, c'est quand on a la foi, c'est là qu'on est irresponsable.
Non, on marche par la foi et ça va être en contradiction avec la logique humaine et les humains nous traiteront d'irresponsables. Mais nous, quand on prend nos décisions, nous les prenons d'une manière responsable. Et nous savons que nous avons des responsabilités en tant que parents, en tant qu'aînés, en tant que jeunes. On a des responsabilités. C'est comme un enfant qui est à l'école, qui prie, qui jeûne, qui va écouter la parole et qui dit, il a une note à la fin de 4 sur 20. Il dit, mais j'ai donné mon temps à Dieu. Non, ça c'est l'irresponsabilité. Voilà. Maintenant, là où il y a une bonne irresponsabilité, c'est quand tu prends cet engagement-là, vraiment conduit par Dieu, les gens au début te traitent d'irresponsable, mais à la fin, quand ils voient que tu as la meilleure note, ils réalisent que ce n'était pas irresponsable, c'est vraiment tu écoutais la voix de Dieu.
Donc justement, je comprends l'exemple que tu donnes. Si par exemple, nous, nos enfants, par exemple, à l'école, on ne veut pas qu'ils lisent des trucs qui sont de sorcellerie, tout ça, on sait que ça va leur plomber certainement leur moyenne parce qu'on préfère, on dit aux profs qu'ils préfèrent qu'ils aient un zéro plutôt que ça. Donc ça nous... L'enfant, si sa moyenne, elle a complètement chuté à cause de ça, bon...
Mais ça ne va pas complètement chuter déjà à cause de ça, mais ça va chuter un peu à cause de ça. Mais ça fait partie des prises de risque.
Ça fait partie de la prise de
risque. Ah oui, oui, pour Dieu, hein. Ça fait partie de ça. Parce que nous, là, on est encore dans l'histoire des notes, mais il y a des gens qui ont failli mourir, là, pour Dieu. Donc, entrer dans la fosse au lion, tu t'imagines un lion, tu vas habiter avec les lions toute la nuit. Donc, c'est... Mais ils sont entrés quand même. Ils sont entrés quand même. Vous imaginez donner ton enfant, moi, le miracle d'Anne, donner Samuel au temple. Bien-aimé, moi, je dis, mais il faut vraiment aimer Dieu pour faire ça. Hein. Laisser ton enfant... Comme ça, une maman, il faut aimer Dieu pour faire ça. Voilà. Nous continuons. Verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, fils de prostituée, mais que Dieu élève, David, Samuel, puisqu'on va revenir sur David et Samuel plus tard, David, Samuel et les prophètes. Combien de prophètes, Élie, Élisée, les Michées, les Jérémie. Jérémie, il y a 400 prophètes et les Michées. Il y a 400 prophètes qui prophétisent une chose, une bonne chose au roi. Et toi, on t'appelle, tu es le 401e prophète, tu prophétises le contraire. Allez, prison directement. Donnez-le de l'eau et du pain sec. Ça, c'est les vrais serviteurs de Dieu. Ils ont foi en Dieu. Ils préfèrent la prison plutôt que prophétiser le mensonge. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas des gens forcément costauds. Ce n'est pas des gens qui étaient forcément extraordinaires. Mais c'est des gens qui tenaient à Dieu, oui, et qui avaient foi en lui. Oui.
Une petite précision. J'aimerais que tu m'éclaires sur un truc. Ces gens n'étaient pas parfaits. Ils avaient des imperfections dans leur vie, d'accord. Mais ils ont eu la foi. Mais quand on voit les faux aujourd'hui, pour les gens de l'extérieur, ils prennent des risques pour Dieu, les faux serviteurs.
Ah bon, quel risque?
Ils partent en Guadeloupe faire une œuvre.
Non, ils prennent pas de risques, tout est bien calculé.
Non, mais pour les gens de l'extérieur, ils vont là-bas. Et quand on voit aussi les faux par rapport à une mission, c'est-à-dire qu'une personne peut dire, moi je sais 1000 euros dans cette œuvre, je prends un risque pour Dieu.
Non, il y a des gens, il prend un risque pour lui-même parce qu'on lui a dit que ça va se multiplier. Parce que quelqu'un qui prend le risque, c'est quelqu'un qui donne, sachant que ça ne va pas revenir. Voilà. Donc celui qui donne 5 000 en disant ça deviendra 50 000, il a investi. Mais au mauvais endroit. Voilà, c'est ça quoi. Mais celui qui donne 5 000, il sait que ça ne reviendra pas. Mais j'aime tellement mon Dieu, je lui donne. Ah ben ça, celui-là, il a pris des risques. De risque. Voilà, la veuve. Jésus a loué la veuve qui a donné tout, sachant qu'elle n'est restée plus avec rien. Sans dire ça reviendra. Non, elle aimait son Dieu. Elle a cherché quoi donner, elle a tout donné. Là, celle qui a renversé le parfum, elle l'aimait tellement Jésus. Elle a dit, mais Jésus, c'est Dieu. Quel parfum, quelle quantité je peux lui donner? Dieu est plus grand que l'univers. Donc il n'y a que tout qui peut aller avec lui. Ça, c'est des exemples. Des costauds de la Bible. Oui, oui. Et c'est surtout beaucoup de femmes, hein, les costauds dans la Bible. Et au verset 33, qui par la foi vainquirent des royaumes? Ils ont vaincu des royaumes par la foi. Exercèrent la justice. Obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, Daniel a fermé la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Verset 35, des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. Ou bien d'obtenir le meilleur, c'est la résurrection. Il y a des gens qui ont préféré qu'ils meurent afin d'obtenir le meilleur qui est la résurrection. Vous voyez une petite note, verset 35, des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Lorsque vous examinez les Écritures, il n'y a que les femmes qui sont à la source des résurrections. Il n'y a que les femmes. Ancien Testament, ce sont les femmes qui sont à la source des résurrections. Nouveau Testament, pareil. Donc le cas qu'on a au Nouveau Testament, la veuve de Naïn, c'est une femme... Lazare, ce sont ses sœurs. Et toujours les résurrections. Il y a aussi Tabitha, Dorcas, que Pierre a ressuscité. C'est toujours les femmes qui sont venues supplier. Ah, mais c'est quelqu'un qui nous aidait. C'est pour dire que, en matière de foi, en général, c'est les femmes qui ont vraiment une foi solide au début. Mais après, comme elles sont instables, donc il faut les encadrer. Donc, après, il faut les encadrer. L'homme, au début, c'est difficile, mais après, il est stable. OK. Non, mais côté résurrection, il n'y a que les femmes, en tout cas. Donc, on compte sur vous ici pour voir des résurrections. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Verset 36. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Là, maintenant, nous arrivons au plus grand costaud de tous. C'est-à-dire les gens qui ont souffert gratuitement, sans qu'il y ait un retour qui confirme qu'ils sont forts. Vous savez, les gens comme le Daniel, il y a eu un retour. Il est entré dans la fosse au lion, mais il sort vainqueur. Mais il y a des gens qui ont entré dans la fosse au lion, ils ont été mangés quand même. Donc, c'est ceux-là maintenant. Donc, la Bible finit avec eux. C'est eux. Hébreux 11 finit avec les grands. Les plus grands, ce sont ceux-là qui ont accepté de perdre tout sur terre. Donc, ils ont accepté de paraître comme ayant échoué quelque part. Mais parce qu'ils pensaient que ce qu'ils font, c'est quand même la vérité. Et la résurrection sera leur défense. C'est eux qui sont les plus grands. Verset 36, ça commence avec c'est eux. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet. Bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, Étienne, sciés. Il paraît qu'Ésaïe a été scié. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, Jean-Baptiste, Élie, et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Voilà ce que Dieu dit. Le monde n'est pas digne de ces gens-là. Dieu élève tellement ces gens-là, il considère que le monde n'est pas digne d'eux. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Dieu a en vue de quelque chose de meilleur pour nous. C'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu que les grands, ceux qui ont juste été persécutés, qui ont été martyrisés, sans pour autant avoir un certain bénéfice terrestre, ces gens-là, Dieu a permis qu'ils vivent cette vie-là, afin que nous, nous soyons leurs bénéfices. Donc, nous soyons leurs résultats. Donc, aujourd'hui, Paul dit dans Hébreux 12, hein, parce que c'est le même, vous savez qu'avant, dans la Bible, il n'y avait pas les chapitres et tout, les chapitres et les versets. C'était un texte. C'était et là, en réalité, le chapitre 12 fait partie, les premiers versets du chapitre 12 font partie du texte qui précède. Parce que c'est écrit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Au lieu de la joie, voilà notre plus grand exemple, le Seigneur. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Voilà, nous qui avons tous ces gens-là comme exemple, nous ne pouvons pas être moins bien qu'eux. Voilà ce que Paul dit. Nous avons une nuée de témoins, environnée d'une si grande nuée de témoins, dont nous pouvons nous dire, mais tiens, il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont fait pleuvoir. Je me souviens de l'histoire de Watchman Nee, dans cette île de Chine, où c'était la guerre de la pluie. Les païens ont dit, on a un jour qu'on fixe, ce jour-là, il ne pleut jamais. Et un jeune chrétien qui était parmi les Watchman Nee, il a dit, ce jour-là, il va pleuvoir cette fois-ci. Et quand lui, l'apôtre, il a commencé à trembler, Dieu dit, mais où est le Dieu d'Élie? Ça n'a pas changé. Et ce jour-là où ils avaient prévu qu'il ne pleuve pas, il a plu en abondance. Et les villageois ont fini par dire, c'est l'Éternel qui est le véritable Dieu. Donc, environné de si grand nombre de témoins, comment on peut mener une vie tranquille? Moi, il y a des moments où je dis, mais comment les gens peuvent supporter la vie de manger, dormir? Un chrétien, ça c'est la vie des animaux. Un chrétien doit faire avancer le royaume de Dieu, la vie. Vous allez manger, vous dormez, vous allez vous écouter les chants. Non, le chrétien doit chercher le dessein de Dieu. Il doit chercher le plan de Dieu. Il doit imiter ces gens-là, les Paul, Étienne. Voilà, le chrétien doit imiter ces gens-là. Il doit affronter. C'est clair, bien-aimé. Moi, je sais que les Juifs n'aiment pas Jésus. C'est pourquoi quand je parle là-bas, je fais exprès, je mets ma veste, c'est écrit Jésus, Jesus loves you. Voilà. Comme ça, ça me fait passer les frontières rapidement. Parce que la personne n'arrive pas à soutenir la phrase-là, à les passer. Voilà. Notre Dieu est plus fort. Nous avons une si grande nuée de témoins. Il y a même des gens, parce que souvent on écoute les faux prédicateurs qui disent, ah bon, tu sèmes, tu récolteras. Oui, il y a des moments, c'est vrai la phrase, nous récolterons, mais parfois nous récolterons au ciel. Donc il faut être prêt à s'aimer et ne rien récolter sur terre. Savoir que ce que je sème, je le fais dans la vérité, parce que Dieu, c'est le Dieu de la vérité et je défends la vérité à travers ma semence. C'est cela. Semer pour vouloir récolter sur terre, ce n'est pas écrit comme ça. On dit ce que tu sèmes, tu récolteras, d'accord. Mais tu peux récolter aussi au ciel. Et on vient de lire, ce n'est pas moi qui dis, au dernier verset, c'est dit que ces gens-là n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis sur terre. Même parce qu'ils le voyaient à distance. Ils savaient. Le plus grand exemple qu'on a, c'est qui? De celui qui savait que l'avenir sera comme tel et il donne des instructions sur l'avenir. Joseph. Voilà. Il a dit avant de mourir, certainement Dieu vous sortira d'Égypte. Alors ce jour-là, n'oubliez pas mes ossements. Ramenez-moi chez mes parents, à Canaan, bien-aimé. Ça, c'est des véritables disciples de Dieu. Et ce jour-là, est-ce qu'on a sorti les os de Ruben? Non. Est-ce qu'on a sorti les os de Siméon? Non. Les os de Judas ou d'Issacar? Pas du tout. parce que tous ces gens-là, ils avaient oublié. C'est Joseph qui savait qu'il devait retourner là où ont été enterrés ses parents, à Macpéla, là-bas. C'est là-bas qu'on devait l'enterrer lui aussi. C'est ça la réalité. C'est ça les héros de la foi. Donc nous allons continuer cette série le mardi à suivre, à venir. Mais en parlant de chaque héros particulièrement, parce que là, Hébreux 11 nous donne la logique. La logique, c'est que Dieu, ce qui lui plaît, c'est la foi. La foi en son dessein, la foi en sa façon de faire, c'est ce qui plaît à Dieu. Les prises de risques pour que son nom soit glorifié. La vie pour lui, c'est ça, c'est ce qui a été la vie d'Abraham. Et il y a un verset dans Hébreux 11 qu'on a lu précédemment. Ils disent que ces gens-là, ils cherchaient quelque chose de meilleur parce que ce qu'on leur a promis, ils n'ont pas eu. Mais et l'apôtre dit, mais comme ils n'ont pas eu ça, ils auraient dû retourner là où ils étaient. Mais ils ne sont pas retournés, ils ont continué à marcher parce qu'ils voulaient quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient avant. Un chrétien doit vouloir quelque chose de meilleur. Ça veut quelque chose de meilleur, c'est quoi? La conversion d'un homme. Moi, je dis, mais c'est quoi la nourriture? C'est quoi le vêtement? C'est quoi le... C'est quand quelqu'un s'est converti, là, nous sommes dans le meilleur. C'est-à-dire, quelqu'un qui était opposé à Dieu, il devient pour Dieu. Là, tu es en train de vivre le meilleur. C'est ça, le meilleur. Donc, il voulait quelque chose de meilleur. Quand tu vois quelqu'un qui ressuscite, tu dis, ah, là, c'est quelque chose de meilleur. C'est cela. Vouloir la gloire de Dieu. C'est des gens qui disaient, mais oui, mais je vais retourner à Ur là-bas. Oui, j'avais des grands terrains, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je veux la gloire de Dieu. C'est ça le meilleur. Donc prions, bien-aimés, que le Seigneur change notre mentalité. Qu'on ne s'arrête pas à être juste correct. Il y a des gens qui sont juste corrects. C'est-à-dire qu'ils sont capables de te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ils ont souvent cette phrase-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Effectivement, ils n'ont rien fait de mal au sens humain du terme, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils n'ont pas l'amour pour Dieu. L'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, malheureusement. Et heureusement que nous sommes sauvés par grâce. Quoi. Voilà. Mais c'est quand même bien de servir Dieu sur terre, parce qu'on n'aura plus l'occasion de le faire au ciel. Au ciel, tout sera cadeau. Donc, là où on peut donner quelque chose à Dieu, c'est sur terre. Voilà. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous aider à saisir l'exemple de nos prédécesseurs de Hébreux 11. Et notre frère Paul dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous voulons vivre comme des gens livrés complètement à toi. Livrés complètement à toi. Pas comme des gens qui veulent t'utiliser, mais des gens livrés à toi afin d'expérimenter ta gloire, ta bonté, ta puissance, d'expérimenter que tu es Dieu. Nous voulons imiter Joseph qui, en mourant, il a dit, Dieu vous sortira d'Égypte, alors emportez mes ossements. Nous voulons imiter Isaac pendant que il bénissait, il voulait prier pour Ésaü, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Mais il n'a pas annulé ce qu'il avait fait parce qu'il a considéré que c'était ta volonté, même si c'était contre nature. Nous voulons imiter Abraham qui t'a suivi bêtement et qui n'a même pas obtenu ce qui a été promis en totalité, mais qui s'est contenté de te servir, toi, et non pas vivre pour lui. Aide-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Ô Éternel, notre Dieu,